Ratafia par Alain Couder, troisième et dernière cassette, deuxième piste, page 165. Chapitre 15. Quand la bande des compagnons arriva à la colonie, une dramatique surprise les attendait. Après quelques jours passés au village à se remémorer les souvenirs du bon vieux temps, les rats avaient pris la décision de visiter toutes les colonies auxquelles ils avaient donné naissance. Ce ne furent à chaque étape que réjouissance et bonheur. Mais la fin de cet après-midi-là, la joie fit place à l'horreur. Raptus et Rabanne aperçurent les premiers le site que leurs petits-enfants avaient choisi pour s'implanter. Ils s'étonnèrent immédiatement de voir cette jeune colonie sans enfants bruyants et joueurs autour des entrées des terriers. Ratafia pressentit un malheur. Une lueur d'angoisse passa dans les yeux de Ravnala. La petite troupe s'arrêta à bonne distance. Nul bruit ne parvenait à ses oreilles. Le village semblait désert, abandonné de toute vie.
« Allons, mes amis, la colonie aura pris la décision de déménager, voilà tout !»
suggéra Ralling d'une voix qui se voulait rassurante. « Il n'est pas dans nos coutumes de voir un clan déménager sans prévenir les plus proches voisins, » dit Raptus.
« Son départ est récent, il aura voulu faire la surprise de sa nouvelle implantation. Mais plutôt que de rester planté là, allons voir de plus près. »
Tout en se laissant glisser sur la pente qui menait au village, Ratafia renouait mentalement avec les réflexes anciens. Nous n'avons pas d'ennemis ici, en dehors des chiens et de quelques rares chats qui restent tous à proximité des habitations. Pourtant, j'ai le sentiment qu'il va nous falloir demeurer désormais sur nos gardes. Le village était effectivement désert, mais il n'avait pas été abandonné volontairement. Partout se voyaient des traces de lutte, des herbes couchées, des branchettes cassées et même des touffes de poils éparpillées. Regardez, toute la surface du village semble avoir été balayée.
Tu as raison, Rabanne, dit Ralling. C'est étrange. Cela ne ressemble à rien que nous connaissions.
Et cependant, ce que je vois me rappelle quelque chose. Quelqu'un m'a conté une semblable aventure.
En attendant que tes souvenirs se ravivent, nous allons explorer les galeries et les chambres, dit Ratafia. Cela peut être dangereux. Nous irons donc par deux. Raptus et Rabanne resteront au dehors pour nous avertir en cas de danger. Ralling, tu visiteras les galeries du haut avec Radouble, Ravnala et moi-même celles du bas. Le premier qui trouve quelque chose d'intéressant appelle les autres.
Aux alentours du village, Raptus découvrit le cadavre d'un rat. Il était énorme, tout gonflé. Sa face congestionnée indiquait qu'il était mort étouffé. Au même instant, un cri signala une autre découverte dans les galeries du haut. Quelques secondes plus tard, Ralling et son compère sortirent en soutenant un jeune rat, enflé de toutes parts, mais néanmoins vivant. On étendit le blessé à l'ombre d'une fleur d'hibiscus, H-I-B-I-S-C-U-S, et on lui donna immédiatement à boire. Il était d'une faiblesse extrême, mais put raconter ce qui s'était passé. C'est arrivé hier matin. Nous avons été attaqués par deux serpents. En un rien de temps, ils ont avalé tous nos jeunes enfants, leur mère et tous ceux qui se trouvaient dans les galeries ou dans les chambres. Après, ils se sont attaqués aux autres qui étaient dehors, les poursuivant, les mordant, car ils ont dans leur gueule un long crochet plein de poison mortel. J'ai vu mes frères être mordus et périr étouffés dans des souffrances atroces. La réserve de venin de mon bourreau devait être presque épuisée puisque je suis encore là, vivant. Grâce à votre aide, je vais beaucoup mieux. Merci, mes amis. Je m'appelle Radôme.
Ralling n'avait pas attendu la fin du récit. Quand il eut compris que le pauvre avait été victime d'un serpent, il s'était éloigné pour cueillir quelques plantes qui allaient au moins le soulager et probablement le guérir de sa morsure. Il administra ses remèdes, médecine apprise de l'autre côté de l'océan, pendant que Ratafia réunissait le reste de la troupe autour du blessé.
Mes amis, dit Ratafia, nous voilà durement prévenus. Les serpents sont parmi nous et féroces. Depuis le temps que je suis sur cette île, c'est la première fois que j'en entends parler en dehors de nos légendes. Les victimes ne sont plus des personnages de conte, mais nos frères. Comment ont-ils pu arriver sur l'île ? Demanda Rabban.
Ils auront sans doute emprunté le même chemin que nous, suggéra Ratafia.
Tu n'y songes pas sérieusement, dit Raling. Un serpent sur un bateau, c'est la catastrophe assurée pour tout ce qui est vivant. Pense aux dégâts que cette bête malfaisante et moins astucieuse qu'un rat peut occasionner.
Non, je crois qu'il y a une autre raison à sa présence sur cette île.
Raconte, Raling, s'écrièrent-ils tous.
Il n'est point l'heure de jouer à la veillée, ajouta Raptus.
Au fait, conclut Rabban.
Bien, je crois, reprit Raling, que les humains des bateaux ont introduit les serpents pour tuer les humains noirs qui s'enfuient des plantations.
Cette idée me semble d'autant plus exacte que je me souviens avoir vu avec toi, Radouble, des déchargements de caisses effectués avec d'inhabituelles précautions.
Je me rappelle parfaitement, dit Radouble.
Maintenant que nous savons que nous avons affaire à un ennemi particulièrement redoutable, qu'allons-nous envisager pour lui échapper ? Demanda Ravnala.
D'abord, restez groupés et nous méfier.
Jour et nuit, nous monterons la garde à tour de rôle, proposa Ratafia. Dès que notre frère sera remis de sa morsure, nous préviendrons toutes les colonies du danger qui les menace.
Quelques jours après, la petite troupe reprit sa route. Il ne s'agissait plus d'une promenade de santé à travers l'île, mais bien de propager une nouvelle grave à toutes les familles. Chacun cherchait par avance une manière d'échapper au croc venimeux décrit par Radôme. Mais en dehors de Raling, qui avait vu des vipères dans sa jeunesse, aucun des compagnons ne savait ce que c'était qu'un serpent. Et tous imaginaient des créatures monstrueuses sortis du plus profond de leur propre frayeur. Le premier village où Ratafia et ses compagnons se rendirent n'était plus que désolation. Il avait été visité par les bêtes cruelles et nul survivant n'était visible. Des cadavres boursouflés de venin ne laissaient aucun doute sur ce qui était advenu. Les rats ne s'attardèrent pas. Guidés par Radôme, ils prirent une petite piste qui les conduisit avant la nuit jusqu'à une autre colonie. L'aïeul du clan, Rali, était un petit-fils de Ravnala et de Rastakato. Après les embrassades d'usage, Ratafia expliqua le motif de leur visite. Les serpents ont débarqué. Nous ne savons pas exactement pourquoi ils sont là. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils s'attaquent aux nôtres. Ils dévorent les petits et les plus jeunes femelles qui les gardent. Ensuite, ils massacrent par plaisir le reste de la colonie. Une seule morsure suffit, car leur gueule est dotée d'un crochet qui distille du venin. Celui qui est mordu gonfle, ne peut plus respirer et meurt étouffé. Nous devons nous protéger contre ces morsures. Sinon, nous ne serons bientôt plus qu'un souvenir sur cette île. Ratafia, dit Rali, tu es connu sur cette terre comme un grand sage. Nous écoutons tes conseils. Que devons-nous faire ?
Nous préparer à affronter les serpents. Nous ne pouvons rien contre eux sinon leur échapper. Raling, qui les connaît, va vous expliquer le plan de bataille que nous avons mis au point.
Voilà, dit Raling. Ces serpents, d'après la description de Radôme, ressemblent assez aux vipères que j'ai rencontrés de l'autre côté des mers dans mon enfance. Ce sont des animaux sans pattes, plus longs que les lézards que nous croisons. Malgré cela, ils sont rapides et très silencieux. Pour leur échapper, nous mettrons des guetteurs sur les arbustes autour du village. Le serpent ne peut pas grimper aux arbres, ni escalader des pentes sèches trop abruptes. Nous préparerons des refuges pour les femmes et les petits avec de la nourriture et de l'eau. Ils pourront ainsi y séjourner suffisamment longtemps jusqu'à ce que les serpents, las de ne pouvoir les trouver, soit poussé ailleurs par la faim. Le reste du clan, divisé en petits groupes, se chargera de détourner leur attention. Nous les ferons courir, nous les épuiserons. Mais nous devons toujours rester à bonne distance de leurs crochets. Un groupe fatigué sera remplacé par un groupe frais, reposé.
Nous devons lasser les serpents et, si possible, les faire fuir.
Je pense que ton plan est bon, dit Ratafia. Je donne des ordres pour le mettre à exécution immédiatement. La nuit se passa sans incident. Ratafia pensa que les serpents n'attaquent pas la nuit. Il s'ouvrit de ce problème à Ralingue, qui partageait cette idée. Mais peu après l'aube, des guetteurs signalèrent des mouvements suspects dans les herbes. Ralingue diagnostiqua l'approche discrète de deux serpents. Les femelles qui avaient charge de famille s'enfermèrent immédiatement avec leurs enfants dans les galeries aménagées pendant la nuit. Outre qu'elles étaient vastes, elles ne comportaient que deux entrées qui furent solidement obstruées par deux gros cailloux. Plusieurs rats s'affairèrent à verrouiller les issues. Le reste de la troupe se porta au-devant de l'ennemi. Ignorant qu'ils étaient surveillés de la cime des arbustes et des hauteurs les plus inaccessibles, les serpents avançaient avec assurance. Le clan les vit enfin onduler dans les herbes sèches, la tête haute. Les rats les trouvèrent plus petits que dans leur imagination, ce qui leur redonna courage. Les serpents surgirent à découvert au beau milieu du village, surpris de n'y trouver personne. Sans hésiter, ils se précipitèrent dans les galeries abandonnées. Ils en ressortirent très vite, furieux de n'avoir aucun rat à se mettre sous le crochet. Mais à leur langue fourchue, flairèrent une entrée du refuge des femelles et des enfants. Malgré leurs efforts, ils ne purent heureusement déplacer le lourd caillou qui servait de porte. « On ne peut pas attendre qu'ils se lassent », murmura Ratafia à l'adresse de Rally. « Je suis de ton avis, compère. Allons caresser les écailles de ces funestes créatures. » Et avant que Ratafia n'ait eu le temps de faire un geste, Rally fonça sur les deux serpents. Les deux têtes vipérines se dressèrent simultanément. Le rat courageux passa si vite entre elles que les serpents manquèrent de se mordre l'un l'autre. Un petit groupe de rats, enhardi par cet exploit, descendit des arbustes et entoura le couple venimeux. Les plus malins se risquaient au plus près, évitant de justesse les crochets tant redoutés qui n'attrapaient que le vide. Une idée germa dans la tête de Raptus. Il contourna le groupe qui détournait l'attention des serpents, se plaça derrière eux et planta ses incisives, pan, dans la queue du plus grand. Le temps que celui-ci se retourne, Raptus avait regagné la sécurité des arbres. « Compère, aveuglons-les !» Ce cri de Ratafia n'eut pas besoin d'explication supplémentaire. Les rats grattèrent furieusement le sol de leurs griffes. Un nuage de poussière sauta aux yeux sans paupières de l'ennemi qui prit peur et s'enfuit en se cognant aux cailloux qu'il ne voyait plus. La troupe les poursuivit, toutes incisives dehors, attaquant les queues qui fouettaient furieusement l'air de colère et de dépit. La poursuite dura jusqu'à ce que les serpents se perdent dans un dédale de rochers où les rats ne jugèrent pas prudent de se risquer. Une ovation salua cette victoire. Les guetteurs reprirent leur poste pendant que les femelles et les enfants sortaient de leur refuge. « Compère, grâce à vous, nous avons évité un grand danger. » Je salue votre bravoure et votre générosité. Merci, Rally, répondit Ratafia. Moi, je salue ton courage. Nous t'avons tous vu à l'œuvre. Mais les serpents reviendront. Il faudra apprendre à ton clan à vivre avec cette menace de tous les instants, ici, au village, mais aussi dans les bois, quand les tiens iront chercher de la nourriture.
Ratafia, interrompit Ralingue, je crois avoir trouvé une solution pour éloigner la menace que ces bêtes dangereuses font peser sur nous. Nous devons établir nos quartiers non plus à terre, mais dans les arbres, comme les manicous. Le serpent ne viendra pas nous chercher jusque-là.
Voilà effectivement une sage idée, Ralingue. À nous de la mettre en pratique et de la diffuser auprès de ceux de notre espèce. Le soir venu, quand la petite troupe reprit la route pour propager la nouvelle auprès de tous les clans de l'île, le village n'existait déjà plus. Ses habitants avaient envahi les arbres d'alentour. Dans le soleil couchant, on pouvait voir les jeunes rats s'exercer à sauter de branche en branche, d'un arbre à l'autre. Ici manquent plusieurs pages du manuscrit original. Elles semblent avoir été arrachées de la reliure. Ne reste que ces mots en haut d'une page. C'est ainsi que depuis cette époque, nous autres, rats des îles, vivons dans les arbres. Nous nous nourrissons essentiellement de leurs fruits et ne descendons à terre que la nuit venue. Épilogue.
Quelle vie a mené ce rat, me disais-je.
Au dehors, le vent semblait s'être calmé un peu. On entendait des gens se héler d'une maison à l'autre. Je n'y prêtais guère attention, encore sous le charme du récit de mon nouvel ami. Il lissait ses poils d'un blanc immaculé. Après s'être roulé sur le plancher, il s'étira, se secoua pour faire tomber le surplus de poussière qu'il avait emmagasiné dans sa maigre fourrure et vint me quémander une nouvelle caresse. Des cris m'arrachèrent à ma rêverie. Je reconnus la voix de ma mère qui hurlait.
« Non, je ne me suis pas inquiété, je le croyais avec vous, Gilles, Gilles, Gilles !»
J'entendis des pas précipités. Mon père entra comme un fou suivi de ma mère.
« Ah, tu es là, mon chéri? Mais qu'est-ce que tu fais tout seul ?»
Je ne sus pas vraiment que répondre. Mon père me gifla violemment.
« Ça t'apprendra à ne pas nous suivre, petit inconscient. La maison aurait pu être emportée par l'ouragan et toi avec, malheureux. »
Quand il me souleva pour me déposer dans les bras de ma mère, je sentis combien cette claque l'avait soulagé de sa peur. Mes yeux s'embuèrent de larmes. Je vis pourtant Ratafia se glisser discrètement sous la porte qui donnait sur notre cuisine, à l'extérieur de l'habitation. Dans ce remue-ménage, c'était bien le diable s'il n'y avait pas un peu de nourriture à chaparder. D'autant plus qu'avec le cyclone qui venait de s'abattre sur l'île, les arbres mettraient du temps avant de porter de nouveaux fruits. À travers les lattes de la croisée, j'aperçus avec soulagement le cocotier de mon nouvel ami, toujours debout. L'histoire de Ratafia est terminée, mais je voudrais te dire quelques mots sur l'auteur, Alain Couder. Il est né le 3 janvier 1952 à Roussac, un petit village de la Haute-Vienne. Il a donc à peu près l'âge de ton papa ou de ta maman. Ses parents étant agriculteurs, Alain a vécu toute son enfance dans une ferme près de Blon, en Haute-Vienne. Avec son chien Pat, il parcourt les bois et les champs, rêvant aux histoires qu'il écrira plus tard. Quand ses parents le cherchent pour ramasser les pommes de terre ou les topinambours, il se réfugie dans les arbres, une provision de livres à portée de la main. Il est resté l'enfant longtemps. La preuve, il est allé à l'école jusqu'à 35 ans. Oh, il est simplement passé du bureau de l'écolier à celui du maître. Il est devenu instituteur, métier qu'il a exercé jusqu'en 1987. Dès qu'il commence à gagner sa vie, Alain Couder dépense tout son argent dans les voyages et en 1979, il s'installe en Martinique. Il n'est pas très attiré par le soleil, n'aime pas forcément la mer, il est malade en bateau, comme Ratafia. Mais il pense que pour bien comprendre les gens d'ailleurs, il convient de vivre avec eux plutôt que d'y passer seulement des vacances. À partir de 1981, il travaille également comme animateur de radio à FR3 Martinique, produit une émission sur les événements historiques de ce siècle dans l'île et parle tous les jours des livres qu'il aime ou déteste dans une chronique, Le Livre du Jour. Il fait ses premières passes d'armes à la télévision en 1983 et en 1985. Alain Couder quitte la radio, la télévision, l'enseignement et la Martinique en 1987. Depuis, il s'est réfugié dans la banlieue parisienne. Il ne fait plus que ce qu'il aime, écrire des livres pour lui-même et pour d'autres jeunes auteurs. Il espère devenir sage un jour et mettre suffisamment d'argent de côté pour acheter un appartement à sa fille et lui permettre de poursuivre ses études longtemps. Comme tu l'imagines bien, l'histoire de Ratafia est tout à fait inspiré de la Martinique. Et tu y as vu, sans toujours y faire attention peut-être, les sauvages qui vivaient dans les Antilles, la Martinique est une des îles des Antilles, avant l'arrivée des Blancs. Tu as vu l'arrivée des Blancs avec leurs fusils. Tu sais, les bâtons bruyants. Tu as vu les boucaniers qui faisaient fumer la viande pour la conserver. Tu as vu les colons
qui cultive, ou plutôt qui faisait cultiver par des esclaves noirs, et il y a maintenant beaucoup de noirs encore en Martinique, qui sont les descendants des anciens esclaves. Ils sont libres maintenant. Et puis, tu as vu aussi le volcan et la montagne Pelée. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Il y a eu une grande éruption au début de ce siècle qui a fait mourir tous les gens de la ville voisine. J'espère que cette histoire t'a intéressé. Moi, je l'ai trouvée amusante, en tout cas. Au revoir.